Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix d'Indonésie en français. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme sera commencé par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Salutateur du Côte-Coin du Monde, bonsoir. Voici le journal dont le titre sont « L'Indonésie doit être le pionnier de la création d'un cadre juridique commun dans le traitement des réfugiés. L'Union européenne est engagée de soutenir les indications géographiques d'Indonésie. Le gouvernement indonésien encourage le développement des indications géographiques régionales. Interpol a salué la police indonésienne. Le vice-président indonésien soutient le renforcement de la coopération d'Interpol. Et enfin, Kadin a demandé d'accélérer l'industrialisation du secteur de la pêche. Voici le journal complet. L'Indonésie doit prendre l'occasion avant qu'il y ait la protection juridique pour résoudre le problème des réfugiés des pays du sud-est asiatique. Jusqu'à présent, s'il y a l'exode massif de réfugiés vers les pays de l'Asie, la solution n'est pas faite ensemble. Cela a été déclaré par le chercheur du programme de réfugiés humanitaires de Habibie Center, Wiria Adiwena, en marge d'une discussion sur l'Asie et la crise des réfugiés à Jakarta lundi. Tout d'abord, les efforts conjoints sur la solution du problème des réfugiés qui sont limités, nous n'avons pas de la même voie pour résoudre les questions des réfugiés dans la région. Il n'y a pas d'effort à long terme sur l'aide humanitaire et il n'y a pas de cadre juridique de traitement des réfugiés en Asie du Sud-Est. Les bonnes nouvelles, nous avons de nombreuses occasions de traiter les réfugiés dans la région. En outre, Wiria Adiwena a déclaré que l'Indonésie devait jouer le rôle à être un pionnier pour les pays du Sud-Est asiatique pour que le traitement des questions humanitaires, comme par exemple les réfugiés, puisse être fait collectivement par les accords intergouvernementaux. L'Union européenne est déterminée à soutenir le développement des indications géographiques indonésiennes et à l'ASEAN. Le commissaire de l'Union européenne chargé de l'agriculture et du développement, Phil Hogan, après l'ouverture du séminaire sur le soutien de l'Union européenne pour les indications géographiques indonésiennes et à l'ASEAN, lundi à Jakarta, a affirmé que les indications géographiques étaient une tentative d'élever la dignité des agriculteurs. Selon lui, l'Union européenne est prête à partager son expérience dans le développement des indications géographiques de l'Indonésie afin que le succès de l'Union européenne puisse être ressenti par le peuple de l'Indonésie. Et le système des indications géographiques est le système de propriété intellectuelle de règles pour nos agriculteurs et nos producteurs dans toutes les régions qui signifieront plus de revenus pour nos agriculteurs, plus de reconnaissance pour nos troisièmes produits et la culture et le patrimoine de ces produits. Et c'est un exemple parfait de la façon dont nos systèmes, nos indications géographiques en Europe peut être reproduit avec un succès similaire en Indonésie. Les indications géographiques sont des noms de places ou des mots qui sont utilisés pour identifier les produits qui proviennent de certaines zones géographiques. Ces produits ont les qualités, les caractéristiques et l'excellente réputation qui est reliée directement à l'origine de ces produits à cause des facteurs naturels ainsi que les pratiques de production traditionnelles. Jusqu'à présent, il y a 52 indications géographiques enregistrées en Indonésie, tout ce qui est divisé en 46 géographiques produits en d'indication de l'Indonésie et ses produits d'indication géographique étrangère. Pendant ce temps, 8 autres indications géographiques attendent encore la publication ou sont en cours d'examen. Les indications géographiques protégées comprennent le café Arabica Gayo, le poivre blanc de Montauk et le miel de Sumbawa. La ministre du Droit et des Droits Humains, Yasona Lawli, invite tous les gens de l'Indonésie qui ont le potentiel d'enregistrer immédiatement les indications géographiques des produits d'indication géographique au ministère du Droit et des Droits Humains après l'ouverture d'un séminaire sur le soutien de l'Union européenne pour les indications géographiques d'Indonésie et à l'ASEAN à Jakarta lundi. La ministre Yasona a dit « La reconnaissance des indications géographiques à un certain nombre de produits régionaux donnera significativement les bénéfices économiques pour la société. » Mais selon elle, le gouvernement procédera à une série de processus de tests avant d'accorder la reconnaissance des indications géographiques pour ces produits.
Jadi kita mendorong semua daerah-daerah sekarang yang mempunyai indikasi geografisnya untuk
Nous encourageons donc toutes les régions qui ont maintenant les indications géographiques à enregistrer. Donc comme le poivre de Montauk de 30 000 à 300 000, le café de 20 000 à 200 000. En effet, elles ont été enregistrées. En effet, il y a un examen substantif. La ministre Lawli Yasona a également déclaré qu'en plus d'offrir des avantages économiques à la communauté locale en augmentant le prix de vente des indications géographiques, les régions indonésiennes peuvent aussi faire des indications géographiques en tant que potentiel pour les touristes. Ceci a été causé par les indications géographiques ont la liaison avec la culture et le patrimoine de la richesse traditionnelle qui est aussi une attraction touristique de l'intérieur et de l'étranger. Interpol a salué la contribution et la participation active de la police nationale indonésienne dans la coopération internationale. Le secrétaire général d'Interpol, Jurgen Stock, dans une conférence de presse après l'ouverture de la 85e Assemblée générale d'Interpol à Nusa Dua, Bali, lundi, a affirmé que la police indonésienne est l'un des membres les plus sportifs et actifs dans la coopération policière internationale. Selon lui, la police indonésienne a soutenu de nombreuses opérations de cross-country. Son rôle et son professionnalisme ont été reconnus au niveau régional et international. Il a dit que la police indonésienne avait soutenu également les centres des informations pour soutenir les efforts mondiaux pour faire face aux menaces à la sécurité ainsi que la formation pour lutter contre la criminalité transnationale et le cybercrime. L'Indonésie a accueilli la 85e Assemblée générale d'Interpol du 7 au 10 novembre, assistée par environ 1000 délégués de 164 pays. Le vice-président Youssouf Kalla soutient le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, pour assurer la tranquillité et la paix dans le monde. La coopération d'Interpol est très importante, car il peut créer la tranquillité, la paix et la sécurité de la communauté mondiale. C'est ce qu'a déclaré Youssouf Kalla lors de la remise de son discours à la 85e Assemblée générale de l'Interpol à Nusa Dua, Bali, lundi. Le vice-président a également encouragé les services de police et de maintien de l'ordre dans le monde pour lutter contre la menace des pays qui se produisent en permanence. Le vice-président a ajouté que la bonne coopération entre le gouvernement, les organismes d'application de la loi, en particulier parmi les membres de la police dans chaque pays, peut soutenir le développement économique. La Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN de l'Indonésie, soutient pleinement la mise en œuvre d'instruction présidentielle numéro 7 en 2016 sur l'accélération du développement de l'industrie de la pêche nationale. Le vice-président du CADIN, chargé de la mer et de la pêche, Yogi Prayanto, dans le discours de la réunion de travail de CADIN, a déclaré lundi que la mise en œuvre de la règle était très importante pour l'industrialisation dans le secteur de la pêche, parce que cela peut influencer l'amélioration du bien-être des pêcheurs, des agriculteurs, des transformateurs et les commerçants des produits de la pêche y compris pour augmenter l'absorption des employés et des devises d'État. Yugi Prayanto a expliqué, dans l'amélioration du secteur de la pêche, le gouvernement et les entrepreneurs devraient également prêter attention à l'infrastructure. Certaines infrastructures, telles que la route, la disponibilité de l'énergie, le gaz et l'électricité suffisantes pour convaincre les investisseurs sur la préoccupation du gouvernement pour l'investissement dans le secteur de la pêche. En outre, le gouvernement et les institutions financières de l'État devraient également aider le financement pour les hommes d'affaires dans le secteur de la pêche. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'est Examen de l'antenne. Après le journal, maintenant, vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre « Les valeurs de l'héroïsme ». Le 19 novembre, la nation indonésienne va célébrer le jour des héros pour commémorer la bataille de Surabaya qui a lieu en 1945. À cette époque, les soldats et les milices pro-indépendance qui ont combattu contre l'armée du Royaume-Uni et des Pays-Bas font partie de la Révolution nationale indonésienne. Les héros dans le présent sont différents des héros dans la période avant l'indépendance. À l'époque avant l'indépendance, les combattants de la nation indonésienne se sont battus jusqu'à la mort pour l'indépendance indonésienne du colonialisme. À l'heure actuelle, la signification d'un héros peut être définie comme quelqu'un qui se distingue parce qu'il a une âme courageuse d'abnégation et non pas seulement égoïste. À l'heure actuelle, l'amour du pays, prêt à sacrifier et courageux sont les valeurs héroïques qui devraient appartenir au public à ce moment. Pour effectuer les valeurs héroïques dans la vie quotidienne, peut être démarré à partir de la plus petite sphère, à savoir la famille. Dans les familles, les valeurs de sacrifice et d'amour pour les autres peuvent être créées. Prêtre à sacrifier peut être la chose plus dure à faire dans le présent où les gens sont plus préoccupés par leurs propres intérêts que des intérêts des autres. Créer la valeur de l'héroïsme dans la plus petite sphère peut être démarré à partir d'une compréhension de la signification importante de dévouement, le sacrifice, le travail dur et de comprendre les intérêts du peuple et non pas des intérêts personnels. Toutefois, pour être en mesure de répondre à cet effort n'est pas facile. Le désir d'appliquer les valeurs de l'héroïque dans la vie sociale a connu un certain nombre d'obstacles. Ici, le rôle de la famille de créer des valeurs de l'héroïsme à la prochaine génération. Serge Luther, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, nous vous revenons encore dans la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui. On commence avec le 8 novembre 1939. Adolf Hitler a échappé à l'attentat d'assassinat à München. Adolf Hitler était un chancelier d'Allemagne depuis 1933 et le chef de la nation ou Führer de l'Allemagne depuis 1934, jusqu'à son décès. Précisément au 2 août 1934, Hitler est devenu le dictateur d'Allemagne après le décès du président von Hindenburg. Chaque novembre, Hitler va assister une assemblée dans le Hall de Bier. Dans l'assemblée qui avait lieu en 1939, un boucheron qui s'appelait Georges Elser a réussi à passer la sécurité du dépistage et est entré dans le hall sans aucune difficulté pour planter un détonateur. Elser a décidé à assassiner Hitler dans cette place en mettant une bombe à retardement derrière le podium où Hitler allait prononcer son discours du 8 novembre 1939. Mais Hitler, qui avait l'habitude de prononcer un discours long, à ce moment, il n'avait que fait un discours plus court. L'attentat d'assassinat a échoué car Hitler est parti 8 minutes plus vite. La conséquence, 13 minutes après que Hitler s'était enlevé du Hall de Bier, Le détonateur a explosé et il a tué 8 personnes et a blessé 65 personnes qui ont assisté à l'assemblée. On continue au 8 novembre 1949, le début de la Journée mondiale de l'urbanisme. L'Organisation internationale de la Journée mondiale de l'urbanisme a débuté le 8 novembre 1949 par professeur Carlos María de la Polera de l'Université de Buenos Aires. Cette date était déterminée comme la Journée mondiale de l'urbanisme ou World Town Planning Day, qui fait partie de la révolution de l'urbanisme global. Jusqu'à présent, il y a 30 pays qui célèbrent la Journée mondiale de l'urbanisme. La célébration a pour but d'augmenter la conscience et l'appréciation publique vers la planification des villes locales ou bien internationales. On passait à la fin de la rubrique en vous présentant l'histoire qui avait lieu le 8 novembre 2002. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a sorti la résolution 1441 qui a offert le chef d'Irak, Saddam Hussein, en déclaration concernant la dernière chance pour accorder le désarmement, qui avait déjà déclaré depuis la dernière résolution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a accordé avec une certitude la résolution 1441 qui avait été soutenue par le vote de 15 membres du Conseil de la Russie, la Chine, la France et les pays du Moyen-Orient comme la Syrie. Ce soutien était plus fort que celui de la résolution de la guerre du Golfe ayant lieu en 1990. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui par la voix de l'Indonésie depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
L'Indonésie devient le pays hôte de la 85e Assemblée générale de l'Interpol, assistée par 190 pays, à Bali, Nusa Dua Convention Center, du 7 au 10 novembre 2016. Le vice-président Yusuf Kalla, lorsqu'il prononçait le discours d'ouverture de la 85e Assemblée générale de International Criminal Police Organization, ou mieux connu comme l'Interpol, a expliqué qu'il encourageait le renforcement de la coopération entre les pays membres pour assurer la sécurité et le pays mondial. Yusuf Kalla a jugé que la coopération dans l'Interpol est vraiment importante car elle est capable d'assurer la sécurité et la paix du peuple au monde entier. Yusuf Kalla a aussi encouragé la police et l'agent de la loi globale d'être capable de lutter contre la menace des pays qui continuent à se produire. Selon Yusuf Kalla, une bonne coopération entre le gouvernement et l'agent de la loi, surtout parmi les membres de la police de chaque pays, est capable de fournir le développement économique. Yusuf Kalla a également dit que le problème de terrorisme est une chose très important à discuter sérieusement dans la 85e Assemblée générale de l'Interpol. D'après Yusuf Kalla, la prévention du terrorisme est un défi dans le cadre global qui a besoin de la participation de tout le monde. Yusuf Kalla a souligné que le terrorisme était une sorte de criminalité extrême. L'Indonésie est connue comme l'un des pays qui a réussi à lutter contre les cas de terrorisme. Néanmoins, il existe toujours des groupes radicaux dont l'existence n'est pas encore révélée. Donc, il nous faut une coopération internationale de la façon d'une répartition des informations sur les réseaux de terrorisme qui a déjà pénétré beaucoup de pays. Il a souhaité que l'Assemblée générale puisse exprimer les besoins du monde sur la sécurité de son peuple. Dans cette occasion, Le vice-président Youssouf Kalla a également exprimé son gratitude à l'égard de l'honneur donné à lui pour prononcer son discours sur la perspective de l'Indonésie concernant le sujet de la décision du pays sur la justice globale. Pendant ce temps, le chef de la police nationale de l'Indonésie, le général policier Tito Karnavian, dans son discours a expliqué que l'Assemblée générale ayant lieu du 7 au 10 novembre s'agissait principalement à la criminalité internationale comme le terrorisme, la traite des personnes, la fraude et l'abus des cartes de crédit. Tito Karnavian a dit que le terrorisme serait le sujet principal de cette assemblée. Ce sujet concernait aussi directement au groupe radical de ISIS qui continue à propager avec le développement des technologies. Le forum va aussi se concentrer sur la criminalité de la traite des êtres humains, la pêche illégale et la cybercriminalité. Tito Karnavian a souligné que Mutual Legal Assistance, ou l'assistance juridique mutuelle internationale, était important d'être mise en place. Il a jugé que nous avions de la chance que l'Interpol entre dans le partenariat de cette approche multifacettée. Il a dit que son membre encourageait tout le monde à se partager et s'apprendre, étant donné que la tâche principale soit de servir le peuple, protéger la paix du monde et lutter contre la criminalité. En plus du vice-président et le chef de la police nationale, le ministre de la coordination de la politique de la loi et la sécurité, Wiranto, le président de l'Interpol, Mireille Balestrasi, et le secrétaire général de l'Interpol, Jürgen Stock, ont également assisté à cette assemblée.
Et puis, on vous présente le rappel des titres de l'actualité. L'Indonésie doit prendre l'occasion avant qu'il y ait la protection juridique pour résoudre le problème de réfugiés des pays du sud-est asiatique. Jusqu'à présent, s'il y a l'exode massif de réfugiés vers les pays de l'Asie, la solution n'est pas faite ensemble. Cela a été déclaré par le chercheur du programme de réfugiés humanitaires de Habibie Center, Wiria Adiwena, en marge d'une discussion sur l'Asie et la crise des réfugiés à Jakarta lundi. Tout d'abord, les efforts conjoints sur la solution du problème des réfugiés qui sont limités, nous n'avons pas de la même voie pour résoudre les questions des réfugiés dans la région. Il n'y a pas d'effort à long terme sur l'aide humanitaire et il n'y a pas de cadre juridique de traitement des réfugiés en Asie du Sud-Est. Les bonnes nouvelles, nous avons de nombreuses occasions de traiter les réfugiés dans la région. En outre, Wiria Adiwena a déclaré que l'Indonésie devait jouer le rôle à être un pionnier pour les pays du sud-est asiatique pour que le traitement des questions humanitaires, comme par exemple les réfugiés, puisse être fait collectivement par les accords intergouvernementaux. L'Union européenne est déterminée à soutenir le développement des indications géographiques d'Indonésie et à l'ASEAN. Le commissaire de l'Union européenne chargé de l'agriculture et du développement, Phil Hogan, après l'ouverture du séminaire sur le soutien de l'Union européenne pour les indications géographiques d'Indonésie et à l'ASEAN, lundi à Jakarta, a affirmé que les indications géographiques étaient une tentative d'élever la dignité des agriculteurs. Selon lui, l'Union européenne est prête à partager son expérience dans le développement des indications géographiques de l'Indonésie afin que le succès de l'Union européenne puisse être ressenti par le peuple de l'Indonésie. Et le système des indications géographiques est le système de propriété intellectuelle de règles pour nos agriculteurs et nos producteurs dans toutes les régions qui signifieront plus de revenus pour nos agriculteurs, plus de reconnaissance pour nos troisième produits et la culture et le patrimoine de ces produits. Et c'est un exemple parfait de la façon dont nos systèmes, nos indications géographiques en Europe peut être reproduit avec un succès similaire en Indonésie. Les indications géographiques sont des noms de places ou des mots qui sont utilisés pour identifier les produits qui proviennent de certaines zones géographiques. Ces produits ont les qualités les caractéristiques et l'excellente réputation qui est reliée directement à l'origine de ces produits à cause des facteurs naturels ainsi que les pratiques de production traditionnelles. Jusqu'à présent, il y a 52 indications géographiques enregistrées en Indonésie. Tout ce qui est divisé en 46 géographiques produits d'indication de l'Indonésie et 6 produits d'indication géographique étrangère. Pendant ce temps, 8 autres indications géographiques attendent encore la publication ou sont en cours d'examen. Les indications géographiques protégées comprennent le café Arabica Gayo, le poivre blanc de Muntok et le miel de Sumbawa. La ministre du droit et des droits humains, Yasona Lawli, invite tous les gens de l'Indonésie qui ont le potentiel d'enregistrer immédiatement les indications géographiques des produits d'indication géographique au ministère du droit et des droits humains après l'ouverture d'un séminaire sur le soutien de l'Union européenne pour les indications géographiques d'Indonésie et à l'ASEAN à Jakarta lundi. La ministre Yasona a dit « La reconnaissance des indications géographiques à un certain nombre de produits régionaux donnera significativement les bénéfices économiques pour la société. Mais selon elle, le gouvernement procédera à une série de processus de tests avant d'accorder la reconnaissance des indications géographiques pour ces produits.
Jadi kita mendorong semua daerah-daerah sekarang yang mempunyai indikasi geografisnya untuk.
Nous encourageons donc toutes les régions qui ont maintenant les indications géographiques à enregistrer. Donc, comme le poivre de Muntok de 30 000 à 300 000, le café de 20 000 à 200 000, en effet, elles ont été enregistrées. En effet, il y a un examen substantif. La ministre Lawli Yasona a également déclaré qu'en plus d'offrir des avantages économiques à la communauté locale en augmentant le prix de vente des indications géographiques, les régions indonésiennes peuvent aussi faire des indications géographiques en tant que potentiel pour les touristes. Ceci a été causé par les indications géographiques ont la liaison avec la culture et le patrimoine de la richesse traditionnelle qui est aussi une attraction touristique de l'intérieur et de l'étranger. Interpol a salué la contribution et la participation active de la police nationale indonésienne dans la coopération internationale. Le secrétaire général d'Interpol, Jurgen Stock, dans une conférence de presse après l'ouverture de la 85e Assemblée générale de l'Interpol à Nusa Dua, Bali, lundi, a affirmé que la police indonésienne est l'un des membres le plus sportif et actif dans la coopération policière internationale. Selon lui, la police indonésienne a soutenu de nombreuses opérations de cross-country. Son rôle et son professionnalisme ont été reconnus au niveau régional et international. Il a dit que la police indonésienne avait soutenu également les centres des informations pour soutenir les efforts mondiaux pour faire face aux menaces à la sécurité ainsi que la formation pour lutter contre la criminalité transnationale et le cybercrime. L'Indonésie a accueilli la 85e Assemblée générale d'Interpol du 7 au 10 novembre assistée par environ 1000 délégués de 164 pays. Le vice-président Youssouf Kalla soutient le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, pour assurer la tranquillité et la paix dans le monde. La coopération d'Interpol est très importante car il peut créer la tranquillité, la paix et la sécurité de la communauté mondiale. C'est ce qu'a déclaré Youssouf Kalla lors de la remise de son discours à la 85e Assemblée générale de l'Interpol à Nusa Dua, Bali, lundi. Le vice-président a également encouragé les services de police et de maintien de l'ordre dans le monde pour lutter contre la menace des pays qui se produisent en permanence. Le vice-président a ajouté que la bonne coopération entre le gouvernement, les organismes d'application de la loi, en particulier parmi les membres de la police dans chaque pays, peut soutenir le développement économique. La Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN de l'Indonésie, soutient pleinement la mise en œuvre d'instruction présidentielle numéro 7 en 2016 sur l'accélération du développement de l'industrie de la pêche nationale. Le vice-président du CADIN chargé de la mer et de la pêche, Yogi Prayanto, dans le discours de la réunion de travail de CADIN, a déclaré lundi que La mise en œuvre de la règle était très importante pour l'industrialisation dans le secteur de la pêche, parce que cela peut influencer l'amélioration du bien-être des pêcheurs, des agriculteurs, des transformateurs et les commerçants des produits de la pêche, y compris pour augmenter l'absorption des employés et des devises d'État. Yogi Prayanto expliquait, dans l'amélioration du secteur de la pêche, le gouvernement et les entrepreneurs devraient également prêter attention à l'infrastructure. Certaines infrastructures, telles que la route, la disponibilité de l'énergie, le gaz et l'électricité suffisantes pour convaincre les investisseurs sur la préoccupation du gouvernement pour l'investissement dans le secteur de la pêche. En outre, le gouvernement et les institutions financières de l'État devraient également aider le financement pour les hommes d'affaires dans le secteur de la pêche. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, on vous propose la rubrique hebdomadaire, le magazine culturel suivi par Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel et cette fois je vais présenter un plat indonésien intitulé Sego Lengko. Il y a quelque temps, le gouvernement de Cirebon, Jepang-Ouest, a organisé un festival Sego Lengko dans le cadre de la commémoration de 647e anniversaire de cette ville. Le festival est participé par 60 participants de divers organismes gouvernementaux, vise aussi à préserver les plats locaux. Le festival intitulé « Manger ensemble avec les fonctionnaires et le peuple » et 60 participants qui ont pris part au festival Sego Lengko ont distribué 2016 paquets de riz Lengko aux personnes qui ont assisté. Sego Lengko ou le riz Lengko est l'aliment typique de la zone de la rive nord, tels que Indramayu, Cirebon, Brebes et Tegal. Cet aliment est assez simple. Lengko se compose de riz, on appelait aussi sega ou lontong, le tofu en tranche et le tempeh frit coupé en coupe, le concombre frais tranché, des morceaux de chou et légère de soja. Les matériaux sont disposés au-dessous du riz et ensuite servis sur un plateau ou arrosés de sauce d'arachide. N'oublie pas de donner une pincée d'oignon frit et sauce de soja. Sego Lengko aussi communément apprécié avec le tempeh mendoan. Beaucoup de commerçants Lengko qui servent également le saté de poulet, le saté kambing comme complément de riz de Lengko. En plus d'un menu de petit déjeuner, Lengko est également vendu après-midi avant le dîner comme un dîner alternatif. Il y a aussi beaucoup de warung, c'est un petit commerce familial, un restaurant populaire le long de la côte nord de Java qui fournit Lengko comme menu principal. Le riz Lengko a teneur en élément nutritif élevé, y compris les hydrates de carbone contenus dans le riz blanc et antioxydants qui est bon pour le corps et peut réduire le risque de maladies cardiaques trouvées à tempeh. Il est riche en protéines, fer, vitamine B complexe, le phosphore, les oméga 3 sont contenus dans l'haricot. Le concombre est riche en fibres, vitamine A, B1, B2 et C et les acides malonates qui sont bons pour le corps. Le prix de Lengko est tout à fait abordable. Pour une portion de riz Lengko, vous payez environ 8 000 rupiah, sauf si vous ajoutez d'autres menus complémentaires, tels que le saté baigné de crevettes et les autres. Le sou est bon pour stimuler la formation de glutathione, une substance qui est nécessaire pour désactiver les substances toxiques dans le corps humain. Ce galenko, prix tout à fait abordable. Bon, chers amis, c'était notre programme magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet d'aujourd'hui est mendapatkan pekerjaan. Ou en français, on dit « trouver un travail ». Allons-y. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après. Mendapatkan. Mendapatkan. En français, trouver. Pekerjaan. Pekerjaan. En français, le travail. Belum pasti. Belum pasti. En français, incertain. Panggilan. Panggilan. En français, l'appel. Wawancara. Wawancara. En français, l'entretien. Perusahaan. Perusahaan. En français, l'entreprise. Rokok. Rokok. En français, la cigarette. Diterima. Diterima. En français, être accepté. Swasta. Swasta. En français, privé. Sekarang. Sekarang. En français, maintenant. Masa percobaan. Masa percobaan. En français, la période d'essai. Berapa lama. Berapa lama. En français, pour combien de temps. Tiga bulan. Tiga bulan. En français, trois mois. Doakan. Doakan. En français, souhaiter une bonne chance. Akhir bulan. Akhir bulan. En français, la fin du mois. Pulang kampung. Pulang kampung. En français, retourner chez la ville natale. Optimiste. Optimiste. En français, optimiste. Lancar. Lancar. En français, bien passé. Success. Success. En français, succès. Téléphone. Téléphone. En français, téléphoner. Bien, maintenant, on va faire une conversation intitulée « Mendapatkan pekerjaan » ou en français « Trouver un travail ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase. Et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Dodi et Tomo, dans un café. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? En français? Alors, tu as trouvé un travail? Belum pasti. Belum pasti. En français? C'est incertain. Tetapi saya mendapat panggilan wawancara dari sebuah perusahaan rokok. Tetapi saya mendapat panggilan wawancara dari sebuah perusahaan rokok. En français, mais on m'a fait déjà un appel d'entretien d'une entreprise de cigarettes. Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? En français, et toi? Saya sudah diterima di sebuah perusahaan swasta. Saya sudah diterima di sebuah perusahaan swasta. En français, j'ai déjà été accepté dans une entreprise privée. Sekarang sedang dalam masa percobaan. Sekarang sedang dalam masa percobaan. En français, maintenant je suis en cours dans la période d'essai. Masa percobaannya berapa lama? Masa percobaannya berapa lama? En français, pour combien de temps est-ce que la période d'essai? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. En français, pour 3 mois. Doakan saya diterima bekerja ya. Doakan saya diterima bekerja ya. En français, donc, souhaite-moi une bonne chance. Karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan, karena kalau sampai akhir bulan saya tidak dapat pekerjaan, en français, car si je n'arriverai pas à trouver un travail à la fin du mois, saya harus pulang kampung. Saya harus pulang kampung. En français, je devrais retourner à ma ville natale. Ayo, kamu harus optimis. Ayo, kamu harus optimis. En français, ben, sois optimiste. Semoga besok wawancara kamu lancar. Semoga besok wawancara kamu lancar. En français, je souhaite que ton entretien d'embauche demain soit bien passé. Saya doakan kamu sukses. Saya doakan kamu sukses. En français, je te souhaite un bon succès. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci beaucoup. Besok setelah wawancara, saya akan telepon kamu. Besok setelah wawancara, saya akan telepon kamu. En français, demain, je vous téléphonerai après l'entretien. Voilà cette édition de Apprendre l'indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous revenons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Chers auditeurs et auditrices, nous finissons notre émission avec la rubrique de distraction, le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs, bonsoir, merci d'être fidèles à la voix d'Indonésie. Chers auditeurs et auditrices, dans le magazine musical de cette édition, je vous présente une chanteuse de dangdut qui s'appelle Santa Hoki. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée La voiture et l'essence. Bonne écoute. Vous venez d'écouter la chanson intitulée Voiture et Essence, composée par Obi Mesa, raconte la croyance en l'amour d'un amant. Cette chanson est la première chanson de Dangdut de Santa, lancée en 1989. Le début de sa carrière est comme chanteuse pop, mais elle n'est pas succès. Sa connaissance avec Obi Mesa, compositeur célèbre des chansons pop dans le pays, ouvre la voie de succès dans la scène musicale de Dangdut. Grâce à cette chanson, son nom est plus connu. Sarah Dutard attend maintenant la chanson suivante de Santa Horti, intitulée Une fleur de riz. Bonne écoute. Chers auditeurs, une chanson intitulée Une fleur de riz que vous venez d'écouter est lancée en 1992, était bien acceptée par le marché et a conduit son nom plus célèbre. Cette chanson raconte quelqu'un qui est intoxiqué par la romance dans sa musique. Le son des tambours et la flûte était si dominant de sa musique. Il est également tout à fait audible, influencé par la musique indienne. Outre la chanson Une fleur de riz, Santhoki a sorti beaucoup d'albums de chansons régionales et religieuses comme Les fleurs d'amour, Le charme des femmes et Timide mais voulait. Serviteur, avant de terminer notre programme, voici la chanson de Santhoki intitulée Le charme des femmes et Timide mais voulait. Bonne écoute et à bientôt. Chers auditeurs et auditrices, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.